Un premier intervenant, il s'agit de Gaylor. Bonsoir Gaylor.
Bonsoir Tristan. Donc voici mon rêve qui date de début juillet. Le début du rêve est assez flou, mais je crois que je suis en famille. Et ensuite, je suis dans un aéroport, il me semble, avec une jeune femme, je ne sais pas trop qui c'est. Et à un moment, il est question du Maroc, on parle du Maroc. Et sans transition, on se retrouve au Maroc, sans prendre l'avion ni rien. Enfin, je ne vois pas dans le rêve l'avion ou quoi. Et donc, on est au Maroc, dans une sorte d'auberge de jeunesse. Il y a une grande chambre collective, tout en longueur. Et on a chacun un lit parmi d'autres personnes. En fait, à l'entrée, ils nous donnent une sorte de clé, d'objet, comme une clé avec un numéro pour chaque lit. Chaque numéro correspond à un lit. Et j'ai le numéro 6. Et elle, bon, apparemment, il s'agit de ma copine, elle a le numéro 7. Et donc, je traverse toute la chambre, donc, qui est tout en longueur, pour chercher mon lit. Je vais jusqu'au bout. Et je trouve mon lit nulle part. Et ma copine, ça la fait rire. Elle me taquine parce qu'elle a quelque chose de très solaire. Elle est très rieuse. Mais en même temps, ça m'agace légèrement, ou peut-être que j'ai un complexe de d'infériorité parce que je suis un peu un peu bougon, quelque chose comme ça. Et elle me dit qu'en fait, mon lit, c'est celui qui est tout à l'entrée, le tout premier. Donc j'y vais, je retraverse toute la chambre qui est très longue. Et là, je m'aperçois que mon lit, c'est de loin le plus mal placé. Parce qu'il est tout près de la porte d'entrée, donc je me dis qu'il va y avoir du passage. Et en plus, il est contre le mur, donc je vais entendre les bruits du couloir et tout. Et en plus, je me rends compte que juste derrière la tête du lit, il y a une autre porte dans le mur perpendiculaire. Et je me dis que ça doit être la porte de la salle de bain, donc pour la chambrée. Donc je me dis qu'il va y avoir là aussi du mouvement et tout au niveau de ma tête. Et je me rends compte que le lit est vraiment très très spartiate. Et en plus, donc ma copine a le lit qui est juste à côté. Et lui, au contraire, elle a un lit qui est immense, très confortable, même luxueux. En fait, c'est un lit à baldaquin. Tout autour, il y a des rideaux, même il y a des meubles, des rangements, avec des étagères intégrées dans le lit. Enfin, voilà. Et donc voilà, je suis un peu déçu, j'ai comme un sentiment d'injustice. Et ma copine vient sur le lit, elle s'allonge, puis elle me taquine. Elle joue avec moi, elle est très joueuse, très rieuse. Et puis à un moment, je me rends compte que c'est plus elle, c'est un dauphin. Elle s'est transformée en dauphin. Enfin, je vois le haut du corps du dauphin qui dépasse d'une sorte de bassine qui était sur le lit. Et à un moment, d'ailleurs, le dauphin, pour s'amuser, il bondit hors de la bassine. Et j'ai un peu peur qu'il me morde. Et quand elle s'aperçoit, quand le dauphin s'aperçoit de cette crainte que j'ai, il éclate d'un rire cristallin. Et le rêve se termine là.
Eh bien, c'est magnifique.
Oui, j'ai bien aimé ce rêve.
Alors, dans le rêve, la compagne qui est représentée, c'est la vôtre réellement ?
Non, du tout. C'est une femme inconnue. Et même, en plus, il y a une ambiguïté dans notre relation. Je ne sais pas trop, comme je disais au tout début du rêve, dans l'aéroport, je ne sais pas trop qui c'est. Et après, j'ai plutôt l'impression que c'est ma copine. Mais bon, on ne dort pas dans le même lit. Ou peut-être qu'il y a une relation qui va s'établir, mais qui n'est pas encore établie. Enfin, en tout cas, apparemment, on est quand même très proches, tout ça, mais je suis pas sûr qu'il y ait encore eu quelque chose physiquement. Enfin, je sais pas trop.
Mais donc, c'est un personnage imaginaire, ce n'est pas votre compagne dans la
tout
réalité.
Tout à fait, oui, personnage imaginaire.
D'accord. Alors, on peut donc supposer qu'il s'agit de votre partie féminine ?
Je pense, mais c'est ce que je me suis dit, hein.
Et que donc, il y aurait une suprématie de celle-ci sur votre construction.
Un sentiment, une sorte de sentiment d'infériorité. Et, disons, je la ressens comme très différente de moi, cette femme dans le rêve. Mais enfin, je l'aime beaucoup, tout ça, mais je me sens presque un peu écrasé, comme elle est toujours, comment dire, très, très positive, très joyeuse, très, toujours en train de rire, et rien ne la dérange. Mais en même temps, celle, bon, bah, dans le rêve, j'ai ce qui est tout pourri et tout. Et donc, bon, ça m'énerve un peu qu'elle en rit, mais en même temps, je me dis, bon, elle a raison. Mais enfin, voilà, on est assez, assez différents, parce que moi, dans le rêve, je suis plutôt. Mais bougon, bon voilà, j'ai pas vraiment le bon rôle.
Alors, qu'est-ce qui vous empêche de vous mettre à son diapason? Qu'est-ce qui vous empêche de la rejoindre dans son lit à baldaquin? Et pourquoi alors, vous êtes rétif par rapport à son bien-être?
Bah, je me suis un peu posé la question, mais alors, plus concrètement, pour le lit à baldaquin, bah ça, je l'envisage dans le rêve. Mais en même temps, comme c'est une chambre collective, où il y a plein de monde, bon, voilà, c'est un peu délicat, mais.
Ça ne vous empêche pas de dormir ensemble.
Oui, voilà, mais comme je vous disais, le problème aussi, c'est qu'il y a une ambiguïté sur la relation. Alors là, je ne sais pas trop si on est
en tout cas, elle vient vous rejoindre dans votre lit. Sur votre lit, en tout cas.
Oui, oui, c'est vrai, mais ça pourrait être une sœur ou une amie. Voilà.
Bah là, il n'y a que vous qui puissiez le savoir.
Ouais.
Puisque donc là, vous n'osez pas affirmer votre désir ou vos sentiments dans le rêve, qu'est-ce qui vous empêche de le faire?
Bah, c'est vrai que dans le rêve, si je regarde un peu, j'ai plutôt du désir et des sentiments, mais c'est pas encore bien concret, quoi. C'est comme si c'est en cours, vous voyez, mais c'est... Il y a encore une ambiguïté, un flou.
Oui, mais là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vous qui êtes rétif, mais elle, elle n'est pas rétive. Donc, il ne tiendrait qu'à vous que vous puissiez augmenter votre bien-être.
Bah, peut-être aussi que je prends ces rires et tout, sa taquinerie pour de la rétivité.
Bah, je le verrais
peut-être
plutôt
que
comme...
je crois qu'elle est rétive.
Je le verrais plutôt comme une invite, comme une invitation. À la rejoindre dans son état. Puisque l'état qui est décrit, c'est un état de bien-être, de plénitude, et puis cette transformation en dauphin montre qu'elle est passée vraiment sur le plan 7. Puisque là, elle est, le 6 vous est alloué, et elle, c'est le 7. Donc le 6 représente le choix, l'indécision, la décision à prendre, justement. Une décision sur le plan amoureux aussi, ou sur le plan de vos choix de vie. Et elle, elle est passée au plan 7, donc le plan de la perfection, de la réalisation globale.
Ah, c'est pas mal.
Et donc, s'il s'agit de votre partie intérieure, il y a donc une transformation qui vient de s'opérer, comme le laisse supposer le début du rêve, puisque vous êtes dans un aéroport et finalement, le vol s'est effectué sans que vous en ayez conscience. Vous n'avez pas vécu l'état d'angoisse qui préside à toute transformation, donc ce changement d'état s'est fait. Et vous résistez encore comme si vous deviez garder quelque chose de votre passé, une structure dans laquelle vous êtes développé, mais il y a vraiment une transformation qui s'est opérée. Alors, dans la réalité, là, donc, le personnage que vous jouez dans le rêve, il est bougon, mais comment il s'exprime et comment s'exprime le personnage enjoué dans votre nature ?
Comment dire le personnage en joue. Bah c'est vrai, je suis très curieux et je m'enthousiasme facilement pour des petites choses. Mais c'est très intérieur. J'ai beaucoup de mal à extérioriser mes émotions. Et bon, ça se voit pas forcément. Si je suis content, joyeux, voilà, ça se voit pas forcément.
C'est proche en tout cas, parce que là vraiment le rêve le notifie. Et puis si vous êtes très pragmatique, il serait judicieux et profitable que vous dormiez dans le même lit, ça vous coûterait moins cher. Puisque là, même si c'est une chambrée, si vous avez des lits individuels, a priori ça coûte plus cher que si vous dormez tous les deux dans le lit à baldaquin. Donc, au sens symbolique, cette séparation que vous opérez encore vous coûte de l'énergie. Et quel est
Bah oui, surtout si encore c'était un deuxième lit à baldaquin luxueux et tout, mais c'est bon, au contraire, c'est une paillasse. Donc oui, effectivement.
Donc sur le plan endogène, donc en ce qui vous concerne, il y a cette partie féminine qui est maintenant bien développée, qui est plus efficace et plus adaptée au monde extérieur que votre partie masculine. Donc là, on peut penser que vraiment vous avez un féminin bien développé. Et il faudrait que le masculin.
Pourtant, parfois, on me dit que je suis trop, trop masculin ou des choses comme ça. Donc je sais pas trop, par exemple, je suis très logique, très analytique, très.
Ça n'empêche pas.
Très rassuré. Ouais.
Ça n'empêche pas, puisque si ces deux composantes sont en place, vous pouvez passer de.
Parce que, ouais, en fait,
d'une fonctionnalité
je pense
qu'effectivement,
j'ai une partie féminine bien développée, mais qui est trop intériorisée. Quoi. J'ai du mal à, comme je disais, un peu à l'exprimer. Et je pense que justement, il n'y a pas assez d'harmonie entre ces deux parties, masculine et féminine. Il y a encore peut-être pas un conflit ou une rivalité ou une compétition, mais pas assez de collaboration. Il y a encore comme une méfiance réciproque ou quelque chose comme ça. Ou...
Enfin, il y a une méfiance de la partie masculine, si on se fie aux rêves. Mmh. Alors, qu'est-ce que vous rejouez ? Est-ce que si vous regardez le couple parental, vous pouvez projeter les deux caractères sur les parents ?
Un peu. Enfin bon, mes parents, ils se sont séparés très tôt. J'étais très jeune, mais... un peu. Bon, c'est vrai que ma mère et mes deux sœurs ont toujours été assez, même très moqueuses, même, enfin, souvent de manière très cruelle, du genre, ah, tu t'es fait mal, tu souffres, assez drôle. Enfin, vraiment à ce point-là. Donc,
Mais donc, est-ce qu'elles sont naturellement plus enjouées ou est-ce que votre mère est plus gaie que votre père?
Par contre, je dirais oui, mais c'est pas dur parce que mon père, pour trouver plus pessimiste, plus noir, c'est pas possible. Sur Terre, mais alors oui, mais bon, ma mère, elle est quand même, elle est enfin, très angoissée, tout ça, elle est très très contrôlante, très autoritaire. Mais je dirais que oui, qu'elle est plus enjouée que mon père, mais aussi parce que mon père n'est vraiment pas du tout. Je l'ai jamais vu vraiment sourire ou être heureux.
Oui, mais là, c'est donc la composante de votre père que vous mettez en action, que vous faites jouer.
Oui, il y a quelque chose comme ça. Hein.
Et là, c'est justement pour mieux vous en séparer, pour mieux prendre conscience de cette différence, de cette iniquité entre les deux parties. Et qu'il y a peut-être une réconciliation qui est en train de s'opérer avec le féminin d'une façon générale.
Bah oui, je pense, et c'est vrai que sur l'ensemble un peu de mes rêves, c'est vrai que là, il y a quand même c'est plus un processus de rapprochement que l'inverse qui a l'air de s'opérer.
Et puis bon, il reste encore cette notion de collectivité, mais là, c'est peut-être inhérent à votre construction aussi. Vous êtes habitué au lit collectif.
Habitué au lit collectif.
Oui.
Par contre, non.
Non.
Mais, non, non, mais enfin, moi, je me suis demandé si ça représentait pas la difficulté que j'ai à trouver le lit. Ça représentait pas la difficulté que j'ai, par contre, à trouver ma place en société, en collectivité.
Ce qui est notifié dans le rêve, c'est encore une résistance aussi à la collectivité.
Oui.
Et donc, face au collectif, vous perdez votre sens critique, votre intuition et la capacité.
Ah oui, ouais, je me sens perdu. Et
que si justement vous fusionnez avec cette partie féminine qui représente symboliquement le féminin, le langage, vous aurez à ce moment-là tous les outils nécessaires à cette communication intrinsèque au groupe. Mais la transformation est en cours, puisque là, vous avez pris l'avion, le décollage s'est fait. Alors, si on joue avec les mots, puisque donc ça se situe au Maroc...
Ça tombe bien, j'allais vous poser la question.
De quoi pourriez-vous dire « j'en ai marocais »
J'en ai marocais... Bon, il y a pas mal de choses, mais... sans doute, oui, les parties en moi qui restent négatives, qui restent ancrées dans le présent, dans les vieux schémas, dans les traumatismes.
Mais est-ce que c'est un héritage du père, cette lassitude des choses, ce sentiment?
Oui, plus de mon père, oui.
Parce que là, visiblement, vous reproduisez le schéma. Il y a quelque chose d'introjecté en vous qui vous fait vous comporter comme le père à votre insu.
Oui. Enfin, pas totalement, loin de là, mais...
Non, mais là, vous mettez en exergue cette partie de vous qui vous gêne.
Oui, dans la... Ouais.
Qui est jamais contente.
Mmh.
Alors que cette composante de laquelle vous vous dissociez dans le rêve, elle est quand même là, elle est fonctionnelle. Mais il y a cette scission en vous qui est peut-être d'ailleurs issue de la séparation de vos parents. Que cette disharmonie intérieure, cette césure, ce schisme, ça s'est produit certainement peut-être au moment du divorce.
Et que... bah, sans doute même avant, je pense, mais ça a dû l'entériner.
Voilà, c'est ça, a cristallisé à ce moment-là. Et il est possible que votre mère était peut-être plus enjouée quand elle était, quand le couple était fonctionnel, et qu'elle soit devenue angoissée contrôlante après se retrouvant seule.
Après, pardon ?
En se retrouvant seule.
Non, parce qu'en fait, elle a quitté mon père pour un autre homme qu'elle connaissait déjà, donc...
Et donc il était vraiment pas drôle.
Donc elle était pas du tout... Je dirais qu'elle a été plus enjouée après avoir quitté mon père, je pense que...
D'accord, donc c'est à l'envers. Mais donc votre père n'est vraiment pas drôle.
Non.
Alors si on prend maintenant le lieu dans le sens, sans jouer sur le mot, le Maroc, c'est le dépaysement, c'est un autre climat, ce sont d'autres mœurs, d'autres... C'est l'exotisme. Donc vous entrez dans un climat qui serait beaucoup plus chaleureux, quelque chose où vous détendriez, qui peut correspondre aussi à un lieu de villégiature, de changement, et vous avez du mal à y entrer. Et puis si on prend aussi la culture maghrébine, la culture maghrébine est plus collective, elle est plus dans le rapport, dans la sociabilité. Il y a quelque chose auquel vous résistez encore, mais qui est en cours, hein.
Mais c'est vrai qu'en plus, je suis souvent allé dans des pays comme Maroc, Tunisie, Égypte, je suis allé 3 fois et tout. Et en général, dans ces pays, je me sentais bien, mieux qu'en France, à la limite. Enfin, ouais, parce que beaucoup plus de chaleur humaine, et j'étais, justement, j'avais plus ma place, j'étais plus intégré. Même au fin fond du désert, il y avait toujours un bédouin quelque part pour offrir du thé et tout. Et finalement, il y avait plus de rencontres, paradoxalement, qu'à Paris, quoi, dans le désert. Mais par contre, alors il y a peut-être un rapport, parce qu'à une époque, j'ai été marié avec une Marocaine. Mais,
Là encore, donc ça peut être aussi une facette de cette personne, un héritage qu'elle vous a laissé.
Alors elle, par contre, elle n'était pas marrante. Hein. Plutôt comme mon père, d'ailleurs, elle s'entendait bien avec mon père, parce que c'était vraiment quelqu'un de très pragmatique, mais très, très dur.
C'est quand même curieux que vous choisissiez le Maroc pour évoquer une personnalité qui serait contraire à cette Marocaine.
Ouais.
Est-ce que ce n'est pas vous qui la rendiez comme ça?
Honnêtement, non.
Non,
non, même sa soeur me disait que mais elle-même, elle me l'a avoué qu'elle était dure, tout ça. Non, honnêtement, non. C'est même plutôt le contraire. Enfin, au départ, j'étais la seule personne qui puisse supporter. Et donc forcément, au bout d'un moment, ça s'est inversé.
En tout cas, donc, quand vous êtes dans ce climat, dans ces autres latitudes, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et à ce moment-là, vous jouez ce personnage qu'elle n'a pas su être, votre ancienne épouse. Et donc vous avez ce potentiel. En tout cas, le rêve le montre. Hein. Vous avez ce potentiel qui est là. Il y a une réunion, une fusion. Le 7, c'est quand même le chiffre de la création, le chiffre de la réalisation. La perfection atteinte. Vous y êtes. Vous êtes encore identifié au 6, donc le choix, l'indécision. Mais vous allez vers cette transformation. Et puis le dauphin, c'est magnifique.
Oui. C'est vrai que de manière générale, je suis très indécis, j'ai beaucoup de mal à prendre des décisions. ça me prend. Par contre, une fois que j'ai pris une décision, vraiment, je m'y tiens, j'y mets toute mon énergie, je suis persévérant et tout, mais j'ai du mal à prendre une décision. Mais ceci dit, là, j'ai l'impression que c'est un peu mieux quand même. Bon, voilà, il y a une évolution positive où j'ai moins de mal, parce qu'avant, comme en plus j'intellectualise énormément, donc je suis du genre à peser le pour et le contre indéfiniment. Donc ça n'aide pas à la décision. J'ai beaucoup d'intuition, mais que je n'écoute pas assez.
Oui, ben là, c'est exactement féminine, ce que dit le rêve. Si vous écoutez cette partie féminine, vous allez spontanément prendre la bonne décision, sans réfléchir, mais simplement.
Mais je ne fais pas assez confiance, quoi. Je fais trop confiance.
Oui, vous ne faites pas assez confiance à votre intuition, à votre ressenti et à la spontanéité.
L'écoute plus quand même maintenant, mais.
Bah, c'est en face, c'est autant en train de se faire. Et donc ce rêve met justement en exergue la résistance que vous avez par rapport à cette transformation, mais c'est, je pense que c'est un combat d'arrière-garde et que la transformation est en cours. Hein. C'est juste un bastion de résistance dans votre psychisme que le rêve va souligner pour s'en moquer.
Bah, j'espère que ce ne sera plus que de l'histoire ancienne, des haillons.
Et vous reprenez donc la moquerie féminine familiale pour vous moquer de vous-même.
Mais peut-être justement que j'ai tendance à mal prendre les moqueries de ma copine, alors qu'en fait, je pense que c'est affectueux, voilà, elle me taquine et tout. J'ai tendance à mal interpréter ça, c'est des projections, puisque j'ai beaucoup souffert des moqueries de ma mère, sa sœur jumelle, mes deux sœurs, etc. Et des tantes qui me disaient que j'étais laid, que j'étais pas intelligent et tout dans l'enfance, tout ça. Et mes grands-mères, enfin voilà, ça faisait beaucoup, beaucoup de femmes dans la famille sur moi. Et je pense que c'est à cause de ça que je dois projeter ça sur elle, alors qu'elle n'est pas comme ça.
Ah oui, donc c'est un vrai gynécée dans lequel vous étiez.
Oui. Ah, j'étais un peu cerné. Et puis bon, avec les hommes, c'était pas mieux.
Bon, en tout cas, c'est en cours. Et si vous laissez cette voix s'exprimer en vous, vous allez vraiment vers un état de grâce.
Et le dauphin, plus précisément, qu'est-ce qu'il représente
La conscience qui se sépare de l'informel. Le dauphin représente cette partie de vous qui sort de l'inconscience, qui se sépare de la mer, qui respire et qui cherche à communiquer avec le genre humain. Donc ça peut représenter une partie plus sociable de vous, et qui est en cours, et qui ne va pas vous mordre, évidemment. Et puis sinon, le dauphin, c'est le successeur du roi.
Ah oui, tiens, ah oui, j'ai pensé. Ah oui.
Et donc, vous pourriez être appelé aussi à devenir roi.
C'est-à-dire ?
À régner sur votre domaine, à être capable d'avoir un pouvoir, et un pouvoir juste.
Donc le dauphin, ce serait un peu une nouvelle partie en moi, comme
un potentiel qui grandit, pour ramener à la place du père. Que vous deveniez père. Ouais. Mais c'est en cours, donc laissez-vous porter.
Bon, très bien.